Merci pour les musiciens qui sont là de passage quand même et qui ont pu aussi nous rejoindre pour servir le Seigneur. Merci Francky, merci aussi Arnaud. Merci à toutes les personnes qui ont intervenu pour ce culte. D'ailleurs, ce matin, j'ai appris que Francky faisait des arts martiaux. Je ne savais pas ce don que tu avais. On pourrait en discuter, je suis aussi ceinture noire. je n'ai pas retenu que cela pendant ta présidence. Oui, Dieu est en paix et ce Seigneur, à travers le Jésus-Christ, nous apporte la paix qui nous dépasse vraiment. Ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole dans Hébreux, chapitre 1, les trois premiers versets. Et le titre de cette prédication, je ne donne pas de titre en général pour ma prédication, mais peut-être pour Isabelle qui va devoir mettre ça sur Internet, ce serait bien de mettre comme titre « Par le Fils », ce serait quand même pas mal. Cette semaine, donc, les chrétiens ont fêté l'ascension de Jésus, n'est-ce pas ? C'était cette semaine, et en effet, après la mort, la résurrection, Jésus est resté pendant 40 jours avec les siens. Il est apparu vivant aux apôtres et aux autres disciples et il leur a donné de nombreuses preuves de sa résurrection. Il a surtout parlé de son règne, le règne du Seigneur, le royaume de Dieu qui est sur terre mais à venir aussi. Il a aussi rappelé la mission que les apôtres doivent accomplir dans le futur. Et puis, il leur a surtout enseigné pour qu'ils prêchent la repentance et le pardon des péchés, non pas seulement aux Juifs, mais à toutes les nations. Ensuite, après avoir enseigné pendant 40 jours, pendant 40 jours, il est monté au ciel et il s'est montré en tout cas devant plus de 500 témoins, d'après les Corinthiens. Et il est monté au ciel. C'est ça l'ascension. C'est une fête importante pour les catholiques. D'ailleurs, les protestants aussi, on considère ça assez important, mais pas aussi important que la mort et la résurrection, ou encore la Pentecôte, la venue de l'Esprit-Saint. Cependant, l'ascension reste quand même un événement important pour ceux qui attendent surtout le retour de Jésus, puisque la parole de Dieu nous dit que Jésus reviendra. Et comme il est monté au ciel, de la même manière, il reviendra dans les airs pour prendre les siens avec lui. Donc si nous avons l'espérance de son retour, oui, l'ascension est aussi un événement important. Mais ce matin, j'aimerais que nous nous concentrions davantage sur Jésus, ce personnage, ce Dieu, homme, qui est tellement important et qui est rapporté dans toute la Bible. J'aimerais vous lire les deux premiers versets dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Voilà pourquoi j'ai choisi le titre « Par le Fils ». Là, on voit bien que le Seigneur nous a parlé à travers l'Ancien Testament, c'est-à-dire à travers la période où, avant Jésus-Christ, et à travers aussi le Nouveau Testament, après et pendant Jésus-Christ. C'est-à-dire, en tout cas, la Bible est un livre qui parle de sa personne. D'ailleurs, toute la Bible parle de Jésus. L'Ancien Testament parle, ou plutôt prépare la venue de Jésus, annonce la venue du Messie, le Sauveur, qui viendrait justement pour résoudre le problème de péché de tous les hommes, par son sacrifice et par sa résurrection. C'est pour ça que d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir les rites sacrificiels des animaux, qui sont aussi une certaine préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. Cette nouvelle a été donc annoncée depuis toujours, depuis que l'homme a péché, et ça a été planifié déjà par Dieu lui-même. Et malgré tout ce plan merveilleux, les hommes se sont détournés de lui, Mais malgré la désobéissance de l'homme, Dieu a continué à parler à l'homme. C'est une grâce, vraiment. Il a continué à communiquer avec nous. D'ailleurs, lorsque nous avons des conflits avec quelqu'un ou quelqu'un nous a offensés, communiquer avec cette personne devient très difficile, n'est-ce pas ? Je pense que vous avez dû tous expérimenter. Si cette personne, et je ne sais pas, comme il y a pas mal d'étudiants, est quelqu'un de la classe, on n'a qu'à ne pas le voir, n'est-ce pas ? On a surtout l'habitude de ne pas communiquer avec cette personne-là, puisque nous avons d'autres camarades. Mais qu'est-ce que vous faites si cette personne avec qui vous êtes en conflit est un membre de votre famille ? Vos enfants, si ce sont vos enfants, si ce sont vos parents, si ce sont, je ne sais pas, votre sœur, votre frère, ou votre conjoint, conjointe, qu'est-ce que vous faites ? Souvent, on a du mal à communiquer. Soit on se met en colère, bien sûr, et puis après maintes reprises de colère, de disputes, les gens sont tellement frustrés, déçus, en colère contre cette personne, on arrête de discuter, on arrête de parler. À cause de leur cœur blessé, à cause de, on garde le silence. Or, le Seigneur nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà la réaction normale. D'ailleurs, j'ai vu vraiment un couple qui ont arrêté de parler entre eux pendant quelques jours. Ce quelques jours a duré encore plus des semaines et des mois. Et j'ai vu même quelqu'un qui ne parlait pas entre eux, entre couples, pendant quelques années. Comment ils communiquaient ? Ils communiquaient en fait à travers leurs enfants. Écoute, moi je m'en vais. Donc ils disaient aux parents, enfin aux enfants pour dire que je pars, etc. Oui, la déception, la colère, ce genre de conflit peuvent, ou parce que l'autre a commis des fautes, permet en tout cas de cette coupure de communication. Cependant, Dieu, malgré nos péchés, lui, il n'a jamais arrêté de nous parler. Il nous parle toujours encore aujourd'hui, mais il a toujours continué à essayer de communiquer avec nous. Lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? La première chose qu'il a dit, c'est « Où es-tu ? » Il essaie encore d'entrer en contact avec ces gens-là qui sont dans le péché. « Où es-tu ? » Il savait très bien où ils étaient, mais il les rappelle à l'ordre. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? La première chose qu'il fait encore, c'est l'Éternel fit, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Oui, maintenant qu'ils ont pu voir, avec le fruit du bien et du mal, ils ont pu voir qu'ils étaient tous nus, ils avaient honte, c'est pour ça que Dieu leur a fait un habit en tuant des animaux. Dieu a toujours voulu communiquer. Bien sûr, les hommes par la suite devaient bien sûr subir les conséquences du péché, mais Dieu a toujours trouvé une solution pour résoudre ce problème de péché. C'est pareil aussi à l'époque des juges, à l'époque des prophètes, lorsque l'Israël était éloigné de Dieu et que lorsqu'ils se sont rapprochés avec des idoles, le Seigneur bien sûr était en colère. Et puis qu'il y a eu cette nécessité de jugement d'Israël, mais Dieu a toujours voulu entrer en contact pour qu'il se repente. Et lorsqu'il se repente, il n'a pas hésité à entrer en contact avec eux, à les ramener vers le Seigneur, pour leur accorder aussi, comme disait Francky, la paix du Seigneur dans leur cœur. Voilà donc ce qui s'est passé dans Ésaïe 4, chapitre 1, verset 15, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Voilà, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il ne nous abandonne jamais, même si nous nous éloignons de Dieu, comme nous avons parlé ce matin. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il nous parle. Et ça, on appelle ça la grâce, l'amour. Ça s'appelle vraiment, oui, l'amour, un grand amour. Donc je relis encore le verset 1 dans Hébreux. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. À l'époque de l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, le Seigneur a choisi plusieurs prophètes, plusieurs juges, plusieurs hommes de Dieu pour qu'ils soient son interprète. Et il leur a parlé. Et puis à l'époque du Nouveau Testament, Dieu, au verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Par le Fils, Dieu nous a parlé. En un mot, Dieu nous a toujours parlé à travers la Bible pour qu'on puisse se réjouir de Dieu. Et c'était ça aussi notre but, se réjouir de Dieu à travers cette communication que nous pouvons avoir. Et c'est vrai que quand nous voulons nous réjouir de quelqu'un, il faut qu'on soit proche. En ce moment, avec le coronavirus, nous voyons cette difficulté d'être proche avec quelqu'un. Nous ne pouvons même pas serrer les mains, nous ne pouvons même pas manger ensemble au risque d'être contaminé par le virus. Et donc, on s'éloigne. Alors que nous avions l'habitude de manger une fois par mois, ensemble, pour la communion fraternelle. D'ailleurs, les gens s'invitaient aussi de temps en temps les uns des autres pour avoir une meilleure communication, meilleure communion fraternelle. Mais aujourd'hui, avec le coronavirus, nous voyons qu'avec cette distanciation, on a du mal à être proche des uns des autres. Et comment se réjouir avec quelqu'un lorsque nous ne sommes pas proches? De même, le Seigneur dit, oui, nous devons nous réjouir de Dieu, mais pour cela, la première chose qu'on devrait faire, c'est être proche avec le Seigneur. Rétablir cette relation cassée, se réjouir. En tout cas, à travers l'Ancien Testament, le Seigneur nous a parlé du message de la venue du Messie. Il a ouvert le chemin pour le salut de l'humanité. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous préfériez entre être à l'époque de l'Ancien Testament ou être maintenant? Maintenant, oui. Alors, cela ne veut pas dire non plus qu'ils n'étaient pas dans la grâce, n'est-ce pas? Quand nous voyons Dieu, comment il a parlé aux prophètes, c'est quand même incroyable. Dans Amos 3,7, il est dit que Dieu leur a montré des secrets à leurs fidèles et surtout à ses serviteurs, c'est-à-dire « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dieu avait révélé ses secrets, pas forcément tous les secrets, mais une partie de ses secrets à ses serviteurs. Ou encore, il a parlé avec des songes, ou à travers les rêves, dans Nombre 12, où il est dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » C'est super. Et là, encore plus loin, il va encore plus loin, le Seigneur. « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison et je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. » En fait, ici, voilà, les différents prophètes pouvaient justement recevoir des visions, des songes de la part du Seigneur pour transmettre ce message aux enfants d'Israël. Mais à Moïse, Dieu a parlé face à face. Dieu a parlé face à face. Imaginez votre pasteur. Hier soir, il a été révélé. Et il a parlé avec le Seigneur face à face. Et que je suis là ce matin pour parler de sa part, ça aurait été vraiment formidable, n'est-ce pas? Je serais aux anges de pouvoir parler face à face avec le Seigneur. Je vais reposer la question. qui est plus enviable entre Moïse et nous. Mais je dirais nous, bien sûr. Nous, pourquoi? Parce que même si Moïse a vu une partie d'une représentation de l'Éternel et qu'il a pu vraiment discuter, avoir une communion super intime, nous avons Jésus-Christ, le Dieu parfait, qui nous a parlé déjà à travers la Bible et que, voilà, il est vraiment, il est lui-même Dieu, le Fils de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est fait chair. Cette parole de Dieu nous a parlé avec une parole parfaite. C'est pour ça que nous sommes, en fait, dans la bénédiction de Dieu. J'aime bien parler aussi un petit peu de temps en temps cette unicité, la différence entre l'unicité et la pluralité. Enfin, je vous explique pour vous donner un exemple. La pluralité n'est pas forcément meilleure que l'unicité. Je vous explique. Ce matin, je me suis habillé en costard. Vous avez bien remarqué, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'habitude de prendre mon costard. D'ailleurs, ma fille dit, mais pourquoi, papa, tu prends ton costard? Hein? Pourquoi tu es habillé comme ça? Je n'ai pas l'habitude, c'est vrai. Et imaginez, ce matin, vous avez ouvert aussi votre placard pour choisir un vêtement. En général, les hommes, ils s'en foutent un peu. Hein? On prend ce qui est... Enfin, voilà, moi, je... D'ailleurs, ça fait déjà 25 ans que je l'ai. Hein? Je n'ai pas acheté de vêtements de costard depuis, en tout cas, au moins 10, 15 ans. Mais la différence, c'est que... Et puis, d'ailleurs, les femmes, quand ils ouvrent leur placard, il n'y en a pas assez. Il nous faut plus parce que ça ne va pas avec telle couleur, le style ne va plus, la mode est dépassée, ou encore parce que nous avons grossi et que nous avons besoin de changer. Hein, donc, toute la garde-robe, il faut tout changer, etc. D'ailleurs, ce costard commence à me serrer aussi, hein, depuis après 25 ans. Voilà. Cela veut dire aussi que et imaginez un vêtement parfait qui ne s'use pas et qui change même de forme, de style, selon la mode de l'époque ou encore selon les différentes saisons. Hop, vous avez juste un seul vêtement, vous vous habillez, vous sortez et là, c'est vraiment parfait pour vous. Vous préférez quoi? Plusieurs vêtements ou un seul vêtement parfait? C'est un seul vêtement parfait. La pluralité ne remporte pas forcément sur l'unicité. Oui, pour vous dire que Dieu est parfait, Jésus, la parole de Dieu est parfaite. Et que, d'ailleurs, dans Jean 14, il est dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, c'est Jésus qui parle, et que le Père est en moi ?» Ils sont tous, ils sont un, même essence. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Dieu, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a laissé était parfait. Certes, Ésaïe nous a décrit la miséricorde, nous a parlé de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, mais Jésus lui-même était miséricordieux. Jésus lui-même était juste et saint. Jérémie a beaucoup décrit sur la puissance de l'Éternel, mais Jésus, justement, avec ses œuvres, lui-même était un Dieu puissant. Ézéchiel a décrit la gloire de l'Éternel à venir. Jésus était dans la gloire de Dieu. Je vous lis la suite. Donc Jésus, il a établi dans Hébreux 2, il a établi de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Voilà, Jésus est le Créateur. Et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa puissance, de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Ce Dieu qui est tellement glorieux, puissant, miséricordieux, saint, juste, et surtout à travers sa mort et sa résurrection, il a réglé le problème du péché. Pour ceux qui font confiance en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés par sa mort, puisqu'il a tout emporté avec lui, nos péchés. Il a expié nos péchés. Lorsqu'il était sur la croix, il a dit, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Pourquoi il a dit ça ? Pour moi, c'est il était dans la lourdeur du péché. Il a, à ce moment-là, porté à notre place tous nos péchés sur lui. Il y a eu ainsi, vous savez quand il y a le péché, la relation est rompue avec le Père. Il a emporté avec lui tous nos péchés par sa mort et par sa résurrection. Il a été parfait, parfait pour l'expiation de nos péchés. Et c'est ainsi qu'il a ouvert le chemin d'accès pour aller auprès du Père. Maintenant, oui, à travers sa mort et sa résurrection, nous pouvons nous approcher de Dieu pleinement, avec beaucoup de liberté, sérénité, mais aussi en paix, avec plein d'espérance. La question que je nous pose, c'est, voilà Dieu qui nous parle, qui n'a jamais arrêté de nous parler. Depuis le commencement, depuis la création, Dieu n'a jamais cessé de nous parler. Et puis, il veut toujours que nous soyons dans sa présence, dans sa présence. Alors, la question que je nous pose, c'est qu'est-ce qui nous empêche ? Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre cette voix du Seigneur pour voir ce Jésus ressuscité ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Ce sont des personnes, des choses, des mauvaises habitudes, des choses de la chair. Dans Romains 8, 30, 15, 13, pardon, il est dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Oui, Dieu nous parle toujours. Et là, en ce moment, il nous demande aussi de déchirer notre cœur, pas notre vêtement. Pas faire l'apparence d'une repentance rapide. Mais il nous demande d'être un vrai chrétien authentique en déchirant notre cœur, en étant plus attentif à sa voix. Que ceux qui ont les oreilles écoutent la parole de Dieu. Et d'ailleurs, j'ai commencé ce message en disant que oui, nous sommes dans la semaine de l'Ascension. Oui, Jésus, il y a plus de 2000 ans, est venu sur la terre, mort, ressuscité. Après avoir passé 40 jours avec ses disciples, il est monté au ciel et il reviendra. Et le Seigneur dit après, « Veillez donc !» car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Le Seigneur revient. Et nous devons préparer notre cœur. Le Seigneur revient peut-être pendant notre vie sur terre, ou même après notre mort, on ne sait pas, personne ne sait ce jour. Mais en tout cas, le Seigneur nous dit, soyez prêts. Marchez sur le bon chemin. Peut-être ce bon chemin est un chemin étroit et difficile, mais marchez sur ce bon chemin. Et ainsi, vous aurez une récompense, le salut éternel. Ainsi, soyez fidèles jusqu'à la fin. Heureux ceux qui écoutent, qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette grâce. Oui. Malgré notre désobéissance, malgré que nous étions loin de toi, rebelles, parfois colériques aussi, tu nous as jamais abandonnés. Tu n'as jamais cessé de nous parler pour que nous nous repentions, pour que nous puissions revenir vers toi. Toi qui es un Dieu parfait, toi qui nous parle encore à travers cette révélation spéciale qui est la Bible. Seigneur, aide-nous vraiment à avoir ce désir de grandir dans la foi, pas juste se contenter de l'état où je me trouve, mais vraiment, conduis-nous vers cette maturité spirituelle. Aide-nous à grandir avec le temps. Oui, on ne peut pas grandir du jour au lendemain comme les enfants qui... C'est impossible, Seigneur. Mais les enfants grandissent petit à petit. De même, oui, parfois nous avons aussi besoin de la nourriture spirituelle. Souvent, même tous les jours, nous avons besoin de cette nourriture spirituelle pour grandir et pour apprendre de toi davantage, pour être plus proche de toi. Seigneur, oui, toi qui as été parfait, comme cet habit qui se transforme selon les saisons. Tu es un Dieu parfait qui nous conduit vers le bon port. Et je te prie vraiment, Seigneur, de nous conseiller, d'être à nos côtés, Seigneur. Car c'est vrai, la vie n'est pas une fleuve tranquille, avec plein d'épreuves aussi. Mais lorsque nous sommes avec toi, nous serons toujours vainqueurs. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Merci de nous avoir parlé. Donne-nous non seulement la motivation, mais que nous puissions aussi mettre en acte ce que tu mets dans notre cœur. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Donne-nous aussi non seulement le vouloir, mais aussi le faire, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.